Résonance. Une émission de résonance contemporaine sur Radio B. Au microphone, Alain Goudard. Aujourd'hui, je vous invite à partager des paroles d'enfants à travers un ouvrage de Lily Pampil intitulé « Ma maman à moi », raconté, dit, par Timéo Josserand. Née en 1970 en Bourgogne, Lily Pampil se sent très jeune attirée par le dessin. Elle passe donc un baccalauréat à 3, lettres et arts plastiques, puis poursuit des études d'histoire, de l'art et d'archéologie. Tout cela demeurant très théorique, je bidouille, gribouille et patouille en autodidacte pour satisfaire mes élans créatifs, exprime ainsi Lily Pampil. Jeune maman, ayant choisi d'élever ses 3 enfants, elle est entourée de littérature pour ses petits. Attirée depuis très longtemps par la littérature enfantine, elle se décide à travailler sur un premier projet en 2009 qu'elle soumet au regard du jury d'ouvrez les livres aux bébés. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Près de 7000 bébés vont découvrir en 2010 son premier album. Lily Pampil a utilisé des pastels secs sur papier émeri. Le grain du papier et sa couleur d'origine donnent de la matière à ses illustrations tout en rondeur. La douceur et la tendresse qui émanent de chacune des planches de cet album ont séduit le jury. Quant au texte, il se prête à merveille à la lecture à haute voix avec la phrase titre qui ponctue chaque page.
Thank you.
résonance sur Radio B, Ma maman à moi, une histoire, un livre, imaginé par Lily Pampille.
Ma maman à moi ne sait pas lire ces lettres-là, mais l'histoire qu'elle m'invente pour me bercer m'emporte dans des rêves enchantés. Elle sait tout faire. Ma maman à moi n'a pas le sens de l'orientation, mais avec son sens de l'humour et son imagination, on retrouve toujours le chemin de la maison. Ma maman à moi. Ma maman à moi ne connaît pas le son de ma voix, mais quand on danse, elle et moi, elle entend toute ma joie. C'est la plus belle. Ma maman à moi, je ne connais pas le son de sa voix, mais quand elle m'apprend les mots avec les doigts, on rit beaucoup, elle et moi. elle est magique. Ma maman à moi ne sait pas cuisiner, mais c'est un vrai génie. Elle sait transformer la cuisine en batterie. Quel rythme! Je suis tout étourdie.
Thank you.
ma maman à moi. Ma maman à moi ne marche pas, mais pour me faire découvrir de nouveaux horizons, elle va toujours au fond. Elle me fait plein de bisous. Ma maman à moi ne voit pas, mais quand elle me caresse de ses doigts, aussi doux que de la soie, je sais qu'elle me connaît mieux que moi. Thank you. des bisous de velours. Ma maman n'a pas de goût, mais les surnoms sucrés salés qu'elle sait me donner sont comme des recettes parfumées. Elle est magique. Ma maman à moi est blanche, blanche comme de la neige. Mais quand je suis au creux de ses bras, je n'ai jamais froid. Elle sait aussi faire des bisous mouillés. Ma maman à moi ne sait pas nager, mais pour que je devienne un bon nageur, elle surmonte toutes ses peurs. Ma maman à moi n'a pas de cheveux, mais quand on joue aux pirates, elle met son joli foulard et me murmure « Mon plus grand trésor, c'est toi ».
Résonance sur Radio B, Ma maman à moi, une histoire et un livre imaginé par Lily Pampille. Alors tout d'abord, je tiens encore à remercier Timéo Josserand d'avoir donné corps avec sa voix à ce texte de Lily Pampille. Cet album paru en 2010 nous adresse aussi quelque part un message et qui nous entraîne à dire qu'au-delà des frontières, des couleurs, des limites, rien n'empêche une maman
maman d'aimer son enfant. Un album plein d'humour qui permet de dédramatiser le handicap ou la différence, et ainsi que les pastels de Lily Pampille viennent aussi lui donner plein de douceur et de rondeur à cet album grâce à ses couleurs vives et chaudes, et c'est vrai que tout cela apporte beaucoup de douceur. Voilà, alors aujourd'hui et maintenant, après avoir entendu ce texte à travers la voix de Timéo Josserand, j'ai le plaisir d'accueillir Lily Pampille au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en tout cas, vous êtes avec nous par téléphone dans cette nouvelle émission de Résonance. Alors, je voulais préciser déjà, Lily Pampille, que vous résidez en Bourgogne et que finalement, peut-être que la fibre vers les arts plastiques, le dessin en l'occurrence, vous êtes venue de manière assez jeune et que ces envies-là vous ont porté à faire un baccalauréat plutôt tourné vers les lettres et les arts plastiques, et puis qu'ensuite tout ça, toutes ces envies vous ont conduit aussi, vous ont conduit vers des études d'histoire, d'art et d'archéologie. Même vous dites, si je ne me trompe pas, tout cela demeurant très théorique, vous bidouillez, vous gribouillez, vous patouillez en autodidacte pour satisfaire vos élans créatifs. C'est un peu de tout ça qui a... Enfin, peut-être on peut évoquer pendant quelques moments, si vous voulez bien, Lily Pampille, qu'est-ce qui vous a donné justement un petit peu envie d'aller vers le dessin, vers l'écriture, vers un peu toutes ces choses.
Ah, alors, oui, tout ce que vous avez cité donc en avant.
Oui.
J'ai toujours aimé le dessin, tout ce qui touche à l'art, ça m'a toujours beaucoup plu.
Ouais.
Et en tant que maman, c'est vrai que j'ai eu aussi une passion pour l'illustration enfantine et ces petites histoires qu'on peut leur raconter et passer un moment de tendresse avec eux, de partage. Et puis on a quand même une très belle langue qui nous permet de faire de jolies rimes. Et puis le pastel, le dessin, c'est une passion.
Et ça veut dire que vous, dans votre enfance, il y avait déjà autour de vous cette habitude de peut-être de vous entraîner dans l'imaginaire des histoires.
Tout à fait. J'ai toujours eu inventé des petites histoires. J'ai toujours aimé raconter, aller dans le rêve.
C'est un peu cet imaginaire donc qui a donné la sève et un petit peu j'irais l'impulsion après à développer un petit peu ces choses là. Et
je pense que c'est en nous, c'est en soi, on s'en rend à peine compte, c'est dans la conscience.
C'est ça. En tout cas, vous avez senti que c'était peut-être au travers de ce médium, si je peux dire, un peu là, du dessin ou du mot, que vous pouviez, laisser transparaître, en tout cas, donner forme à ce que vous ressentiez.
Tout à fait.
Hein? Oui. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, jeune maman aussi, d'une part, vous avez bien sûr choisi d'élever vos trois enfants et puis de les entourer justement de littérature le plus possible. Et que là, du coup, c'est peut-être la continuité de ce que vous disiez avant. À la fois, il y avait cette sève, il y avait cette impulsion, et puis le fait d'avoir ces enfants et de leur offrir aussi plein d'histoires à lire et à regarder. Du coup, ça vous a peut-être convaincu d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche personnelle ?
Oui, c'était aussi les beaux livres d'enfants que je voyais me donnaient aussi envie de moi créer un jour mon propre livre, inventer une histoire où j'en ai d'autres, et puis les accompagner de dessins. J'avais vraiment envie de faire les deux, et ça c'était vraiment un rêve.
Ouais. Et ça veut dire que même en étant maman, gardons encore cette période-là, de temps en temps, dans certains moments de tranquillité de la journée, vous écriviez quelque part, vous notiez des choses. Comment vous procédiez ? Ou peut-être que ça, c'était pas encore quelque chose que une méthodologie entre guillemets, si je peux dire de la sorte, qui était déjà active pour vous, ou ça s'est constitué à ce moment-là ?
Oui, c'est quand même la période où j'étais où je baignais vraiment dans la maman qui est présente au quotidien. Et là, les histoires naissaient chaque jour, une petite histoire, et de temps en temps, on écrit un mot, et hop, un mot vous envoie sur autre chose. Et là, l'imaginaire part, et on construit des petites histoires avec un petit peu de sens, et avec des petits messages aussi. Je trouve ça important.
Ça veut dire aussi que voilà, il y a un accueil, accueillir le don des mots, par exemple, des vocables, et puis du coup, de l'imaginaire aussi qu'il vous apporte.
Oui, tout à fait.
Hein? Il y a aussi ça. Alors, à un moment donné, dans toutes ces, je dirais, ces histoires qui commencent à se profiler, qui s'écrivent, il y a l'idée de, et on reste encore proche de ce que vous disiez, de l'état de maman, quoi, en même temps. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, va naître ta maman à toi, par exemple. Comment est-elle? C'est de là qu'est devenue un peu cette idée?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Et de pouvoir un petit peu concrétiser, alors avec bien sûr un regard sur des mamans les plus différentes, hein, parce que si on résume un peu l'histoire, au-delà des frontières, des couleurs, des limites, je le disais tout à l'heure, hein, rien n'empêchera à une maman d'aimer son enfant, qu'une maman ait peur de l'eau, qu'elle soit nulle en orientation, qu'elle soit paraplégique ou encore sourde, elle trouvera toujours des parades pour aimer son enfant, écrivez-vous, hein.
Oui, exactement.
Donc il y avait l'idée aussi d'une ouverture à toutes les mamans, à toutes les conditions, à toutes les manières d'être aussi, à toutes les singularités finalement.
Oui, mais ce qui était important aussi, c'était vraiment de pouvoir véhiculer ce message qu'en tant que maman, bien sûr, on veut toujours faire au mieux, mais on sait très bien qu'on fait des erreurs, on en fait tous. Mmh. Alors c'est valable, donc voilà, pour la maman de déculpabiliser, de ne pas forcément
tout
être maman parfaite, mais c'est aussi valable pour l'enfant de se dire, je ne suis peut-être pas toujours non plus l'enfant que papa ou maman voudrait que je sois, mais voilà, je suis, quoi.
C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est important, effectivement, et de faire que ça soit pour la maman, pour le papa ou l'enfant, que là, il y a une singularité qui est en train de se construire, qui existe. Elle est ce qu'elle est au regard des autres, puisqu'on se construit, bien évidemment, à travers le regard des autres, avec la rencontre des uns et des autres. Et dans le milieu familial, il en est de la même chose. Les parents ont une perception de leur enfant, comme l'enfant a une perception de ses parents. Et c'est là-dedans que se construit petit à petit l'être en devenir, ou chemine, en tout cas, ce que chacun est, finalement. Finalement.
Exactement.
Alors donc du coup, ça prend forme, si je peux dire ainsi. Et puis, en même temps, vous décidez aussi de participer à un dispositif qui était mis en place et qui existe toujours. On en parlera dans un peu plus dans quelques instants par le conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui était ouvrez les livres aux bébés.
Oui.
Et comment aviez-vous, vous aviez eu connaissance déjà de ce dispositif, ou comment la chose est venue, de cette envie aussi de, je dirais, de franchir un cap aussi, ces histoires qui étaient encore dans l'ordre de l'intime finalement, de pouvoir les développer et de les ouvrir à d'autres?
Oui, à l'époque, donc je découvre qu'il existe effectivement cette opération, et en même temps l'idée me plaît dans le concept. De pouvoir, comme ils disent, ouvrir les livres aux bébés.
Ouais.
Et donc ce concours permettait donc à des écrivains, auteurs, illustrateurs de participer, dans la mesure où ils n'avaient jamais été édités ou connus dans une maison d'édition avant.
Mmh.
Donc c'est un concours, je me dis, allez, pourquoi pas, je présente ce projet. Et voilà, il s'est avéré que cette année-là, le petit album a été lauréat.
Et c'est super.
Et a été distribué à tous ses enfants. Et oui, c'était... C'était une très très belle aventure, et le fait que ce livre soit offert donc à tous ces enfants, ça allait aussi dans le même sens que ce petit livre, quoi.
C'est ça. Je rappelle, puisque du coup j'ai pu consulter donc sur le site du conseil départemental du Puy-de-Dôme, que 7000 bébés ont pu découvrir en 2010 votre album dans le département justement du Puy-de-Dôme. Donc effectivement, c'est formidable, ça. Vous ne deviez pas vous attendre à une telle issue, si je peux dire, pour ce premier album.
Non, tout à fait. C'était vraiment une belle récompense. Les autres le méritaient autant. Hein,
bien sûr, bien sûr.
Parce que, voilà. Mais bon, ce qui est assez aussi amusant, c'est que finalement, encore récemment, là, pas si longtemps dans l'année, j'ai présenté des livres à Annecy, et une maman avait connu... avait connu ce premier ouvrage il y a déjà donc quelques années, et était tout ému de la rencontre qu'on pouvait faire quelques temps plus tard.
Ben oui, ça c'est formidable, ça. Voilà, et effectivement, juste pour rappeler cette initiative du conseil départemental du Puy-de-Dôme, voilà, qui est dans sa 14e édition, je crois, cette année, et c'était l'idée aussi de d'ouvrir les livres à tous les bébés, c'est nourri par la volonté de réduire les inégalités, justement, en matière d'accès aux livres et à la culture de l'écrit, et puis, quelque part, combattre un petit peu l'illettrisme. Et donc, c'est aussi s'attaquer aux conséquences scolaires des inégalités sociales et culturelles, puis des conséquences qui touchent d'abord la maîtrise du langage, avant même la maîtrise de l'écrit, et donc privilégier l'accès à la langue, du récit au sein des familles, contribue aussi à gommer les différences des capacités langagières de ces enfants à leur arrivée à l'école maternelle. Et cette opération permet également d'accompagner les parents dans la recherche de l'éveil de leur enfant, les sensibiliser au développement du langage par le biais du livre. Et puis il s'agit également de favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance. Ça, voilà, c'est un petit peu les lignes de fond qui traversent cette initiative où vous avez participé. Hein. Mais en même temps, on sent bien que ça rejoint des lignes de fond et des valeurs qui sont les vôtres également.
Exactement.
Voilà, alors j'imagine aussi, Lily Pampi, que suite à cet ouvrage « Ta maman à toi, comment est-elle ?» et il y a eu d'autres albums aussi qu'ont pu naître par la suite.
Alors, ils ne sont pas édités.
Oui.
Les histoires sont prêtes.
Oui.
En partie les dessins, et c'est vrai que ça fait encore partie aujourd'hui de mes projets, de pouvoir peut-être les sortir en petits livres, parce que c'est aussi d'autres histoires avec des jolis petits messages. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, je ne me suis pas encore confrontée à trouver peut-être un éditeur ou le faire seul. C'est ce que j'ai essayé de faire. Un peu oui. En fait, par rapport à ce petit livre dont vous parlez. Donc,
oui.
C'est effectivement au départ l'initiative avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme. Mais moi, en fait, j'ai fait une réédition.
D'accord.
Voilà. Et ça, je l'ai fait seul et c'est un petit peu compliqué.
J'imagine. Donc, du coup, vous vous êtes confronté, je dirais, à comment trouver un jour d'abord un éditeur
diffuseur,
qui puisse, un diffuseur qui puisse vous accompagner dans votre démarche. Quelque part, bon, bien sûr, c'est une très belle initiative qui a permis, d'une part, à cet album, bien sûr, d'exister, hein, comme vous le disiez.
Oui.
Mais pour le moment, c'est pas, ça n'a pas permis, en tout cas, vous puissiez trouver quelqu'un qui vous accompagne dans la diffusion de vos autres travaux.
Voilà.
C'est ça.
Moi, je dessine, hein, j'écris, mais après, il y a toute une mise en page.
C'est
une
certain.
Page, comme je dis, c'est un autre métier et il faut des accompagnants pour mettre tout ça en place.
Bon, ben, j'espère que c'est des possibilités qui vont s'offrir à vous, en tout cas.
Je l'espère.
Mais alors, on évoquait le dessin, on évoquait ce type d'album, on évoquait aussi votre envie d'écrire, et donc tout cela est passionnant. Mais je sais, pour m'être rendu aussi dans le lieu où vous êtes établi, à Cluny, qu'il y a aussi quelque part un peu la sculpture aussi, d'autres données, d'autres manières de vous exprimer aussi que vous utilisez.
Oui.
Hein, et vous pouvez nous en dire quelques mots, par exemple dans le domaine de la sculpture, comment peut-être vous y êtes lancé ou le type aussi de sculpture que vous essayez de travailler.
Alors je pense que la sculpture c'est aussi quelque chose qui, je pense qu'on, comme je dis, c'est en soi, hein,
ouais.
Parce que petite, moi, vous me donniez un petit morceau de pâte à modeler, voilà, il fallait déjà que quelque chose sorte. Je suis vraiment. Et puis j'ai découvert l'argile un peu plus tard, et là c'est aussi une révélation. Voilà, et je travaille aussi beaucoup sur le thème, mais ça se rejoint finalement quand on connaît le livre.
Oui.
L'argile, moi je travaille avec du pastel, hein, donc ça reste aussi de la poudre, de la terre finalement. Mmh. Et puis, je ne sais plus, j'ai perdu le fil.
Mais le fait de travailler avec l'argile, de travailler cette matière...
Oui, et puis finalement, je travaille aussi sur des thèmes très, très féminins. Je travaille beaucoup sur la maternité, sur... tout est très lié à la terre et à la vie.
Mmh.
Et respect de la vie.
Oui, c'est ça. Et en plus, vous êtes dans un lieu qui est une ancienne poterie, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Donc là aussi, il y a des correspondances fortes, hein, finalement. Et du coup, il y a des projets de ce côté-là en ce moment pour vous, en train d'aboutir sur le point de vue de vos réalisations au niveau de la sculpture.
Alors oui, si j'arrive à m'accorder une petite bulle de création, je devrais pouvoir proposer des nouvelles créations, on va dire en 2020, pour
en 2020.
Un peu de temps.
Oui, parce que on peut expliquer à nos auditeurs que, bien sûr, on vient de mettre en lumière certaines facettes de votre personnalité, mais vous êtes aussi, si je peux dire aussi comme cela, engagé dans une autre aventure d'art. Là, on va dire plutôt un art culinaire avec toutes ses saveurs, mais là aussi, on peut y trouver des... Vous parliez de féminité tout à l'heure et sans, bien sûr, la cantonner à ce domaine-là, bien évidemment. Loin de là, ma pensée. Mais en tout cas... Là aussi, vous y trouvez, même si vous n'êtes pas lié directement à la fabrication, vous me direz, en tout cas, peut-être que oui, vous êtes engagé dans cette aventure aussi avec le lieu qui s'intitule le Potin Gourmand à Cluny, où là, il y a notamment une très belle hostellerie déjà qui nous accueille, qui vous accueille, un charmant hôtel avec une atmosphère vraiment très particulière et très sympathique. Et puis, bien sûr, on est au cœur du Mâconnais, des vignobles du Beaujolais. Enfin, voilà, il y a plein de saveurs hein, qui sont là à travers une cuisine aussi des plus riches et des plus intéressantes et des plus goûteuses. Mais là aussi, vous êtes embarqué aussi dans cette aventure qui vous prend aussi beaucoup de temps.
Oui, qui me prend beaucoup de temps oui, aujourd'hui. Mais après, voilà, c'était... C'est une rencontre, comme vous dites, avec un lieu. Et puis c'est une rencontre avec des gens d'univers divers et variés, ce qui me plaît, avec des échanges. Et ça me nourrit aussi. Ça me nourrit autrement, mais ça me nourrit.
C'est ça, hein, parce qu'on peut rappeler, bien sûr, j'évoquais tout ce côté gustatif, et là, bien sûr, chez les auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre chez le Potin Gourmand à Cluny, mais aussi le fait qu'on parlait d'art depuis tout à l'heure, il y a une présence aussi d'exposition, de sculpture, il y a aussi cette dynamique, si je peux dire. Hein.
Oui, très régulièrement, c'est un lieu d'art, hein, c'est vrai qu'il y a... Il y a des pièces hein, d'artistes
tout à fait.
Locaux et d'ailleurs. Et voilà, on met en avant, on associe les arts.
C'est ça. Et comment se fait un petit peu justement cette programmation entre guillemets ou cet accueil un petit peu, vous êtes à la recherche d'artistes ou vous suivez certains artistes ou certains se signalent auprès de vous comment s'imaginent les choses
se présentent, après c'est par aussi par connaissance, par lien et puis on essaye de varier hein, autant sculpture, peinture, photo, l'année dernière c'était des photographies. Et puis cette année, je ne sais pas encore exactement si dans l'été on aura de nouveaux artistes qui souhaitent présenter leur travail, mais voilà, c'est assez ouvert.
Quels artistes ont pu être présentés dans le cadre du Potin Gourmand?
Pardon?
Quels artistes jusqu'à présent ont pu être présentés dans le cadre du Potin Gourmand?
Alors, les artistes locaux, c'est oui. Toujours aussi intéressant.
Bien
c'est
sûr.
Donc on a notamment Jackie Borzicki qui a exposé ses œuvres pendant plusieurs mois. Ils sont partis après du lieu, on en garde toujours une ou deux.
Oui.
Nous avons aussi quelques pièces d'un artiste qui vient du Burkina Faso, qui a laissé des petits bronzes très intéressants et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et de couler des bronzes comme ça en direct avec du public. C'était assez, assez drôle, enfin, voilà,
j'imagine.
Assez vivant, ça amène des dimensions sur d'autres, on va assez loin.
Et donc vous évoquiez qu'il y avait eu aussi donc la photographie et l'artiste en question, vous présentez quel type un petit peu de photographie?
Alors c'était des photographies, alors je suis désolée parce que là je me souviens plus, il avait une technique très particulière où il retravaillait et faisait des superpositions et on était dans un travail un peu de flou, Monsieur Vol, je suis désolée, son prénom m'échappe à l'instant, mais c'est quelqu'un qui venait d'Aix-en-Provence.
D'accord. Et donc du coup ça veut dire que toutes ces œuvres-là sont présentes pendant un bon courant de l'année.
Pendant un certain temps, c'est eux qui déterminent plus ou moins le temps d'exposition. En principe, c'est vrai que c'est plutôt l'été parce qu'il y a un petit peu de passage touristique.
C'est ça. Et puis le cadre s'y prête bien, hein, quand on connaît un petit peu votre lieu, là où est installé le Potin Gourmand, on imagine très bien et on voit très bien que ces œuvres trouvent pleinement leur place justement et sont mises en valeur hein, justement dans cet espace-là. Hein. Qui, rappelons-le, c'était donc une poterie qui était là de manière depuis assez longtemps d'ailleurs hein, sur ce site, je crois.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, je sais qu'il y a eu deux familles successives, oui. Hein, famille Bernard et famille Montagny, qui donc exerçaient leur talent de potier dans le bâtiment.
Oui, donc là aussi, c'est vrai que c'est une empreinte forte, hein, finalement, oui. De pouvoir à la fois réunir bon, un lieu où des gens se rencontrent pour déguster des choses de saveur, bien évidemment, mais en même temps, une présence d'art aussi forte, et puis comme vous le proposez, qui puisse voilà, s'ouvrir et rencontrer d'autres regards, notamment ceux et celles qui viennent séjourner ou partager un repas chez vous.
Oui.
Hein. Ben, écoutez, voilà, merci beaucoup Lily Pampi de nous avoir accordé ce temps parce que je sais qu'aujourd'hui il était compté.
Merci à vous.
En tout cas, c'était important, bien sûr, à la suite de cette mise en mont qu'a effectué justement ce jeune Timéo Josserand qui a 7-8 ans. Hein. Donc, du coup, avec toute la fraîcheur enfantine de pouvoir dire ce texte, de vous avoir après, bien sûr, à nos côtés, voilà, dans cette émission, était assez essentiel pour vraiment donner tout le sens à votre présence et à cet ouvrage que je rappelle que vous pouvez comment peut-on se le procurer d'ailleurs Lily Pampil si certains de nos auditeurs le souhaitent?
Alors c'est vrai que j'ai pas mal encore d'ouvrages hein. Alors le mieux c'est peut-être de prendre contact avec moi hein, soit par une adresse mail soit par un numéro de téléphone.
Est-ce que l'on peut donner le numéro de téléphone du Potin Gourmand, par exemple?
Oui, bien sûr.
Alors peut-être je vais me le permettre de signifier aux éditeurs que vous pouvez prendre contact avec Lily Pampil au 03 85 59 02 06 et là vous pourrez si vous le souhaitez demander à pouvoir recevoir et à vous entendre avec Lily Pampil pour recevoir l'ouvrage Ma maman à moi, une histoire
et un ouvrage dédicacé.
Comment vous dites?
Je dis un ouvrage dédicacé.
Et en plus, un ouvrage dédicacé. Donc ça ne manque pas. et que je ne peux que vous encourager, justement, chers auditeurs, à acquérir aussi cet ouvrage et à le lire surtout, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, à vos enfants, d'ailleurs, à tout âge. Et même en tant qu'adulte, il est très intéressant également aussi à parcourir. Et ne serait-ce que vous évoquiez les pastels, justement, de cet ouvrage, mais à la fois ce qui est dit, mais en même temps, sa mise en image aussi est très belle et très savoureuse et très douce justement, donc on a beaucoup de plaisir aussi également à le feuilleter. Voilà, encore un grand merci à vous Lily Pampi, et puis peut-être on peut se tenir au courant et peut-être lors d'une prochaine émission revenir auprès de vous et prendre des nouvelles sur justement peut-être ces ouvrages en gestation et de voir voilà, si certains peuvent justement circuler et aller à la rencontre d'un plus large public à ce moment-là.
Et mais avec grand plaisir.
Merci à vous.
Et je vous remercie. Merci.
À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Cette émission de Résonance a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Vous pouvez également nous communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Vous êtes déjà un certain nombre à nous faire part de vos ressentis et à nous encourager à poursuivre la démarche qui sous-tend le projet de cette émission radiophonique. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à vivre ce moment avec nous en compagnie de Lily Pampi, de son album « Ma maman à moi » lu dans la première partie de cette émission par Timéo Josserand. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.